l'invité de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Virginie Bouslama, présidente de l'association Typique Atypique, qui a pour objet d'informer et de sensibiliser sur le haut potentiel et les TDAH, les troubles de l'attention. Virginie Bouslama, bonjour.
Bonjour Valérie.
Alors avant de parler de la journée nationale de sensibilisation du TDAH, c'est le 12 juin prochain au niveau national, c'est plus proche de nous au niveau régional, ce sera à Guenot le 10 juin précisément.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà votre implication autour de ces handicaps invisibles, le TDAH, comment vous avez pris conscience de ce handicap-là? Évidemment, vous avez été touché de près, vous allez nous en parler. Et pourquoi c'est si important de sensibiliser l'environnement?
Alors, sujet vaste. Alors, le TDAH, je suis tombée un peu dans la marmite. Alors, déjà, d'abord de la neurodiversité, puisqu'on était parti un peu dans ma petite tribu, là, du haut potentiel. Sauf qu'il y avait bien des choses qui collaient pas. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu de la chance, finalement. Je suis tombée sur des bonnes personnes, notamment Valérie Bahut, qui est sophrologue à Strasbourg, que je salue, qui est devenue une amie, qui était au départ ma voisine. On habitait Strasbourg. Et puis, qui un jour, voyant mon fils se déplacer dans l'immeuble, descendre sur la rampe avec sa trottinette d'un côté, enfin voilà, le violon de l'autre, me dit, ben voilà, peut-être qu'il a un TDAH, parce que quand même, il bouge, il est hyperactif, enfin, il déménage, et puis, comme ça, dans la foulée, elle m'annonce que moi aussi, vraisemblablement, j'en ai un, mais je ne le sais pas encore. Donc voilà, et puis je me suis dit que, effectivement, elle avait certainement raison, puisqu'on m'avait déjà mis un peu la puce à l'oreille précédemment, et puis on est parti, ben voilà, dans les bilans, dans les diagnostics, parce que c'est quand même hyper important. Et de fil en aiguille, quand on a eu la restitution du bilan de mon fils, je me suis bien rendu compte que ça me correspondait beaucoup. Et je me suis dit qu'il n'était pas trop tard et que je n'étais pas finalement trop vieille pour passer la porte aussi du diagnostic, parce que mon quotidien était quand même compliqué. Avec trois enfants atypiques, et puis moi je ne suis pas en reste et mon mari non plus, c'est riche, c'est toujours riche, c'est animé, c'est extraordinaire, j'ai envie de dire. C'est magique parfois, mais c'est aussi souvent très compliqué et puis épuisant. Voilà.
Pourquoi est-ce qu'on parle de handicap invisible alors? Parce qu'on se dit, voilà, c'est une sorte d'énergie potentielle au quotidien qui est énorme. En quoi ça vous handicape?
Alors d'abord, on parle de handicap puisqu'il y a une loi, la loi du 11 février 2005, qui reconnaît donc le TDAH, entre autres, hein, et puis d'autres troubles comme un handicap, donc invisible. Et c'est bien là que le bât blesse et que ça pose problème, puisque oui, comme son nom l'indique, ça ne se voit pas. Alors le TDAH, c'est un acronyme comme ça qui parle pas, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bon, on a quand même le mot déficit dans l'acronyme, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je dis toujours, je prends un peu mon vécu, mais aussi celui des famille de l'association. L'hyperactivité, c'est génial. On est très actif, on peut faire plein de choses. Souvent, on dort peu. C'est moins génial quand même dans le système scolaire où il faut rester assis, concentré toute la journée, où il ne faut pas trop gigoter, pas trop bouger. Donc là, ça se complique. Le problème attentionnel, il y a des trucs et astuces, il y a des outils. Enfin voilà, on peut le gérer, on peut mettre en place des choses. Ça peut être compliqué quand même parce que quand on a un gros problème attentionnel, on est quand même très impacté, on perd les affaires. On oublie, on arrive en retard, on est vraiment dans une dimension qui est complexe parce que ça peut aussi être, on reçoit des courriers et puis bon, on le met de côté et puis on oublie le courrier.
Vous l'oubliez réellement.
Ça peut être des factures. Donc ça, c'est quand même compliqué. Et puis ce qui est très, très compliqué dans le TDAH, c'est quand on a de l'impulsivité. L'impulsivité, elle peut être verbale, elle peut être aussi motrice, cérébrale. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font que, à différents niveaux, selon les personnes, encore une fois, et c'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est que selon les personnes, ce trouble va plus ou moins impacter le quotidien. Donc il y a des personnes qui le vivent très bien, il y a des personnes où c'est plus compliqué, et puis il y en a où c'est quand même très, très compliqué. Et c'est souvent notamment pour les enfants. Et
au niveau de l'apprentissage scolaire.
Au niveau de l'apprentissage scolaire, puisque encore une fois, être assis, je reprends les termes de mon fils, assis oui. Et enfermé toute une journée derrière un bureau, hein, en salle de classe, c'est quand même très compliqué pour ces enfants-là, qui sont très vite en fait dispersés, qui voient, alors c'est un exemple qui revient souvent, un papillon ou une mouche passer, on les a perdus.
Et c'est fini,
ils passent à autre chose, ou alors un bruit, et puis tout à coup, ils sont déconnectés, et puis il faut après arriver à les remobiliser, à faire en sorte qu'ils se reconnectent, mais c'est pas évident du tout.
Le corps enseignant, il est formé pour cela?
Alors le corps enseignant, en théorie, En théorie, il est formé. En pratique, il n'est pas formé. Il y a quand même beaucoup de difficultés quand on a 30 élèves en classe, en moyenne, hein, on va dire entre 25 et 35, même au lycée, et qu'on a 2, 3, 4 profils comme ça, plus d'autres, hein, plus des autistes, plus des 10, etc., etc., à gérer dans une classe. On peut pas, enfin, c'est pas possible de faire de la différenciation et de faire vraiment des choses adaptées pour chacun. Donc, j'ai envie de dire non, le corps enseignant, en tout cas, n'est pas assez formé. Il est vaguement informé, mais côté formation, non. Et encore une fois, il faudrait vraiment diminuer le nombre d'élèves dans les classes et puis mettre à disposition aussi des enseignants systématiquement. J'ai envie de dire, des aides humaines, hein, les fameuses anciennement oui. ABS, maintenant AESH, puisqu'aujourd'hui, on sait quand même que le TDAH touche quand même 5% d'enfants en âge d'être scolarisés. C'est quand même pas rien.
Alors, une question un peu naïve, le HPI, le haut potentiel intellectuel, ça a un lien avec le TDAH ?
Alors, pas forcément, mais on peut avoir un HPI, plus un TDAH, plus d'autres choses. Ça, c'est vraiment, encore une fois, selon les personnes. Par contre, ce qui est quand même, ce qui revient souvent, c'est que s'il y a un HPI, c'est quand même un plus. Le HPI n'est pas un trouble, c'est pas un handicap, c'est quand même plutôt positif, c'est plutôt une force. Ça permet un peu de compenser les symptômes et les manifestations d'un TDAH, par exemple. Mais c'est pas ça, pas de lien direct.
Alors, on parle beaucoup de préjugés. Alors, au niveau de l'éducation nationale, est-ce que en cours, ce sont des élèves qui sont stigmatisés, mis à part? Et puis après, en allant plus loin, est-ce qu'il y a des formes de harcèlement envers ces élèves-là?
Alors oui, ce sont des élèves qui sont encore malheureusement aujourd'hui très souvent stigmatisés. Donc les élèves sont stigmatisés, les parents culpabilisés, bien évidemment. Hein, c'est un peu la solution de facilité, sauf que ça ne fait pas avancer les choses. Ce sont des élèves qui sont stigmatisés parce que souvent leur comportement est incompris. Forcément, hein, un élève qui est hyperactif, impulsif, qui va parler tout le temps, qui va faire des bruits, qui va gigoter sur sa chaise, qui ne va pas pouvoir attendre son tour ou pas lever le doigt. C'est compliqué dans ce microcosme hein, qu'est l'école, c'est une mini-société. Il y a aussi, c'est une réalité et il faut le dire, des enseignants qui ne comprennent pas ce trouble, qui ne veulent pas le comprendre ou ne veulent pas l'accepter, puisqu'aujourd'hui on entend quand même encore très souvent, notamment dans la sphère scolaire, que ce sont des sales gosses mal élevés, ce sont souvent les mamans qui n'ont pas su les éduquer et que en fait c'est une excuse pour dédouaner l'enfant de son comportement. Alors non, en fait c'est un vrai trouble qui est reconnu. On ne fait pas un bilan ou un diagnostic de TDAH comme ça parce qu'on n'a pas autre chose à faire ou pour s'amuser, enfin voilà, c'est quand même pas anodin. D'autant que ce sont des enfants aussi qui peuvent avoir une reconnaissance de la MDPH par la suite, quand le trouble est vraiment sévère, donc c'est quand même pas anodin. Et puis oui, ce sont des enfants qui sont souvent harcelés, c'est aussi quelque chose qu'on sait. Puisque, encore une fois, c'est quand même des gamins souvent qui sortent un peu du lot par leur comportement, leur attitude. Et forcément, comme ce n'est pas amené, comme les enseignants ne sont pas formés, mais que finalement les autres élèves eux non plus, hein, n'ont pas de connaissance du sujet. Ça va très vite, ça reste après des enfants entre eux. Mais ça donne quand même des situations qui sont parfois dramatiques, en fait.
Alors les chiffres 2 millions en France, vous pensez-vous que c'est sous-estimé ce chiffre, qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas diagnostiquées?
Alors oui, il y a des personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Hein. Il y a plusieurs causes. Alors il y a les personnes qui finalement ont vraisemblablement un TDAH, mais qui n'ont pas de difficultés, j'ai envie de dire, au quotidien. Alors souvent, les parents qui se font diagnostiquer, comme ça a été mon cas, c'est à la suite du diagnostic de leurs enfants. Ouais. Ils se reconnaissent, et puis leur quotidien est quand même compliqué. Ils se disent, bon, je ne suis pas en reste, on va y aller. Mais ça, c'est très personnel. À l'âge adulte, c'est chacun, finalement, fait, s'il en éprouve le besoin ou pas, un bilan ou un diagnostic. Côté enfant, c'est pareil. Il y a des parents qui sont dans une forme de déni, ça peut se comprendre, qui ne veulent pas poser d'étiquette parce que, finalement, qui dit étiquette dit un peu stigmatisation. Mais ce qu'il faut voir, c'est le système qui nous pousse à poser des étiquettes puisque pas de diagnostic, pas d'aménagement à l'école, par exemple, pas de reconnaissance du trouble. Donc oui, il y a des gens qui sont, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes, pas diagnostiqués. Et puis, il y a l'accès aux soins qui est très compliqué, puisque en fait, il y a des délais qui sont juste surréalistes, que ce soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes. On a des délais en local, hein, en Alsace, qui varient entre 6 et 18 mois, selon un peu les professionnels. Alors, quand ça va mal, quand la personne, l'enfant ou l'adulte est en souffrance, c'est quand même très compliqué d'attendre 12, 18, 24 mois pour avoir juste un premier rendez-vous. Ça, c'est pas encore le diagnostic final.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a des pistes quant à la cause des TDAH? Est-ce que, alors là, vous, votre enfant, est-ce qu'il y a une part de génétique dans cette transmission?
Alors oui, il y a grosso modo, on estime aujourd'hui à 70% la part d'héritabilité, hein, de génétique. Donc nous, dans la famille, donc mon fils, bon, mes filles aussi, mais alors pareil, hein, ça ne se manifeste pas forcément de la même manière chez les garçons que chez les filles. Donc moi, et puis ça vient de mon super papa, qui aujourd'hui d'ailleurs le reconnaît. Bon, il a 75 ans, donc voilà, il ne fera jamais de bilan ou de diagnostic, mais il en est tout à fait conscient. Et oui, oui, il y a une grande, grande part de génétique, ça on le sait. Alors, ça peut parfois sauter une génération. Toute la fratrie n'est pas forcément impactée, mais il faut l'avoir quand même dans un coin de la tête. Et puis après, il y a aussi... aujourd'hui, mais on en est un peu encore aux prémices, on commence vraiment à creuser ces pistes, à faire de la recherche, tout ce qui est cause environnementale, notamment pendant la grossesse, est-ce qu'on a eu des traitements lourds, est-ce qu'on a été aussi en contact après avec certaines substances, etc., etc. Ça, on sait que ça a un impact aussi.
Le TDAH et la TSA, les troubles du spectre autistique, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des points communs? Est-ce qu'il y a des sources communes?
Alors, aujourd'hui, on sait aussi qu'on peut tout à fait avoir un TDAH et un TSA, alors qu'il y a quelques années encore, c'était impossible. Enfin, même dans la sphère professionnelle, on nous disait non, on ne peut pas avoir les deux. Alors si, on peut avoir les deux. Et ce qui est très compliqué, effectivement, c'est d'établir un bon diagnostic, ce qu'on appelle différentiel, puisqu'il y a des choses qui se recoupent, il y a des choses qu'on partage entre TDAH et TSA, mais si on va vraiment dans le détail et qu'on fait un bilan, et c'est le but, hein, un bilan vraiment, un diagnostic poussé, une bonne observation, on voit quand même qu'il y a des petites différences. Et ce sont deux troubles différents, deux handicaps invisibles, mais on peut tout à fait avoir les deux.
Alors on va parler de cette journée de sensibilisation, troisième journée au niveau national, c'est le lundi 12 juin. Ici en Alsace, à Haguenau précisément, vous avez retenu la date du 10 juin pour organiser des événements autour de ce TDAH pour permettre à des parents peut-être de se renseigner ou de leur donner des armes pour mieux se défendre au quotidien. Vous demandez aux personnes également de se vêtir en orange. Alors la question peut paraître naïve, c'est pas uniquement les personnes qui sont atteintes de troubles, il n'y a pas une façon de stigmatiser ces personnes, ça pourrait être plutôt sur l'effet inverse.
Non, alors le orange, effectivement, en ayant fait des recherches, quand on a lancé cette journée il y a 3 ans maintenant, il est apparu que le orange et le fameux ruban orange, c'était la couleur du TDAH. Donc l'idée, et c'est ce qu'on a véhiculé notamment au niveau des établissements scolaires, mais pas que, hein, aussi dans la société civile, l'idée c'est de porter, voilà, tout le monde, concerné ou pas, un vêtement orange en soutien. Pour ceux qui sont concernés, le ruban orange, n'importe quoi, du vernis. On a des super mamans là qui ont mis des photos, elles ont mis du vernis orange. C'est plus un peu, j'ai envie de dire, pour marquer le coup, pour avoir un signe un peu, voilà, reconnaissable, distinctif. Et la journée, effectivement, la date phare pour la troisième année, c'est le 12 juin. Bon, là, ça tombe un lundi. Donc, les gros événements, j'ai envie de dire, se feront sur le week-end, que ce soit en local ou au niveau national.
Donc juste en 2-3 mots, parce que le temps imparti malheureusement est déjà passé, de ce samedi 10 juin à Haguenau, qu'est-ce qui va se passer?
Alors on a une journée qui va être très riche, hein, avec plusieurs conférences, bon, comme chaque année. On a un neuropsychologue, un psychiatre, un thérapeute, un médecin généraliste, donc tous spécialistes du sujet, hein, du TDAH, la plupart concernés eux-mêmes, donc ça c'est extraordinaire, parce que du coup ils savent de quoi ils parlent. Et donc c'est grand public, gratuit, accès gratuit, ça on y tient, pour que justement on laisse la porte ouverte à un maximum de monde, bon, inscription via Hello Asso. Et l'idée c'est vraiment, voilà, d'informer, de communiquer, de sensibiliser, de vulgariser aussi pour que ce soit accessible au plus grand nombre et voilà, de porter un peu la voix de ce TDAH et puis de mettre en avant, de montrer ce que c'est pas aussi, de faire tomber ces fameux préjugés, ces fausses croyances et d'essayer enfin d'avancer un peu plus vite, toujours doucement, et qu'on arrive à sortir, voilà, de toute cette sphère de stigmatisation, de culpabilisation, et juste d'accepter que, d'abord, on est tous différents, mais puis après, le TDAH, c'est un vrai trouble, c'est pas une excuse, on ne le fait pas exprès. Voilà.
Le message est reçu, merci infiniment alors, pour votre belle énergie.
Merci,
Virginie
Valérie.
Bouslama, donc je rappelle, vous êtes présidente de l'association ici en Alsace, typique, atypique.
C'est ça.
Invité de la rédaction.